BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et Stéphane Prévost nous rejoint à son tour, directeur général de la Financière Responsable. Bonjour Stéphane.
Bonjour Guillaume.
À 4 jours des législatives, est-ce qu'on va vers un ralentissement de la transition énergétique de la France? On va regarder les programmes, si vous voulez bien. Selon le résultat, est-ce qu'on va vers ce ralentissement de la verdisation de notre économie ou pas?
C'est vrai qu'en fonction du résultat des élections, on va prendre deux directions assez différentes. Alors, sans entrer dans l'analyse politique, quand on regarde les programmes, on voit qu'il y a une continuité qui est proposée par ce qu'on appelle la majorité présidentielle. Et puis, également, le nouveau Front Populaire, qui, d'ailleurs, aucun des candidats n'a remis en cause la trajectoire de neutralité carbone de la France à 2050. On a même, dans le programme du NFP, une échéance qui s'est rapprochée, puisqu'on était sur... Qui s'est éloigné, on était sur 2040, on passe à 2050, ce qui paraît plus raisonnable. Cette neutralité carbone, elle veut dire... elle implique qu'on multiplie par 3 le parc éolien actuel et qu'on multiplie par 5 le parc solaire actuel au niveau des énergies renouvelables. Donc,
parce que sur le nucléaire, le NFP, c'est pas très clair pour l'instant.
Alors oui, sur le nucléaire, c'est pas très clair, effectivement. Mais ils ont déjà annoncé qu'il y aurait des grands programmes qui seraient financés, qu'on privilégierait l'hydrolien, les énergies marines. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu au niveau du programme de certaines composantes du nouveau Front Populaire. Et puis sur la majorité présidentielle, il y avait des engagements qui étaient clairs. Côté Rassemblement National sur les énergies renouvelables, il y a un double paradoxe, à mon sens, qui est clair, c'est que, comme je vous l'ai dit, on doit multiplier face à la hausse de la demande d'électricité, qui est là, qui est liée à l'intelligence artificielle, qui est liée au data center, qui est liée au mouvement démographique, on doit augmenter la capacité. Donc si on arrête les projets renouvelables, je ne pense pas que ça permette de satisfaire une attente de la population qui est la baisse des prix. C'est même un peu paradoxal. C'est le premier paradoxe que je voulais souligner. Le deuxième paradoxe, c'est que au moment où le coût des énergies renouvelables, installation et fonctionnement, est fortement en baisse et est devenu compétitif par rapport au nucléaire, bien, on privilégie une énergie qui est plus chère et qui va être plus longue à mettre en œuvre. Alors qu'on a quand même un calendrier qui est un peu plus serré, puis un impératif d'inscription dans la lutte contre le changement climatique qui est plus immédiat, semble-t-il. Donc c'est le double paradoxe que je veux souligner. Par contre, si on regarde un peu les autres compartiments de valeur verte, en ce qui concerne l'aide au logement, pour aussi réduire les émissions qui sont liées à l'isolation des bâtiments, là, il semblerait qu'il y ait un consensus et qu'il n'y aura pas véritablement le changement. D'ailleurs, pour en discuter avec des managements spécialisés dans ce secteur d'activité, il n'y a pas véritablement de crainte, quel que soit le résultat des législatives. Le dernier point qui a attiré mon attention, c'est la volonté du programme du nouveau Front Populaire d'installer à nouveau des filières d'excellence française dans un certain domaine d'énergie renouvelable. Attention, par le passé, ça n'a pas fonctionné, on n'y est pas arrivé. Et c'est pas forcément le rôle de l'État de le faire. Il y a des acteurs spécialisés dans le domaine. Ça peut coûter cher aux contribuables sans forcément une promesse de résultat évidente. On l'a vu en Allemagne avec... le photovoltaïque, pardon, quand la concurrence chinoise est arrivée à casser les prix. Donc, il suffit pas de le vouloir. Il y a une réalité économique qui peut rattraper derrière.
Le regard d'un investisseur ESG au cœur de ces législatives, ces trois programmes. Vous, en tant qu'investisseur, est-ce que vous pensez que les valeurs vertes risquent de souffrir du coup ou pas? Enfin,
c'est possible, ouais. Compte tenu de.
Elles ont déjà souffert d'ailleurs depuis l'annonce de la discussion.
Oui, mais elles souffraient déjà un peu avant parce que le contexte de taux d'intérêt élevé est pas favorable à la rentabilité des projets des énergies renouvelables en général. Oui. On sort d'une période de taux d'intérêt très bas. On est passé dans un monde un peu différent. Ça coûte cher, ce sont des financements. Il faut vraiment une exécution opérationnelle d'excellence. Et il y a très peu de groupes qui ont montré cette capacité.
Oui, on n'a pas encore trouvé la clé de la rentabilité complète. Hein. En tout cas, voilà, pour la performance boursière, ce n'est pas là qu'on la trouve pour l'instant. On voit une performance très convaincante dans l'ESG, pas encore dans les valeurs vertes. Ça dépend après.
Ça reviendra.
Et puis ça reviendra sans doute, effectivement.
Ce sont des cycles.
Et alors, vous qui êtes investisseur ESG, vous avez quand même l'esprit large, puisque vous voulez mettre en avant aujourd'hui une petite Ferrari.
Oui.
Pourquoi c'est ESG Ferrari?
Oui. Je lis souvent des positions assez contradictoires sur le titre, mais au sein d'un secteur automobile dont vous avez parlé encore assez récemment, sur lequel on n'est pas investi sur les constructeurs généralistes, parce que c'est un secteur où on n'a pas du tout de visibilité, on a là, nous, une entreprise qui coche beaucoup de cases. Très belle visibilité sur le carnet de commandes, le chiffre d'affaires, mais surtout... à l'heure où on veut s'inscrire à la fois dans la mobilité, alors là bien sûr on est sur les véhicules de sport de luxe, très très haut de gamme, on regarde l'impact de ces constructeurs et on a là un acteur qui a vraiment un impact environnemental beaucoup plus réduit, quasiment incomparable vis-à-vis des autres constructeurs. Et puis des performances du groupe ces dernières années absolument remarquables. Neutralité carbone en 2030 qui sera atteinte. Réduction des émissions depuis 2019 du groupe Scope 1 et 2 de plus de 50%. On a également aujourd'hui une capacité du groupe à réduire de 40% les émissions de la gamme actuelle qui est vendue grâce à l'hybridation et l'électrification. Donc ça arrive en 2025. Et pour ceux qui sont très attentifs aux émissions de gaz à effet de serre sur le fameux Scope 3 qui est lié non pas aux impacts directs et indirects, mais à l'utilisation du produit, pour faire simple, l'impact de Ferrari est sans commune mesure avec un constructeur généraliste. Il est de 740 000 tonnes de CO2 sur 2023.
Mais c'est normal, il y a peu de Ferrari.
Mais oui. Et puis, Ferrari, ça roule beaucoup moins.
C'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup,
oui,
c'est tout.
Mais ça roule moins aussi. Ah bon. Mais donc, quand on vous dit que ça coche pas la case environnementale, c'est à comparer aux 400 millions de tonnes de CO2 d'un Volkswagen ou bien aux 100 millions de tonnes de CO2 d'un Mercedes. Vous voyez, donc là il y a le principe de réalité que l'investisseur doit avoir et le gérant, à mon sens, doit avoir l'esprit. Et puis, je vais vous dire, quand on regarde l'aspect social également du groupe, j'ai parlé des performances environnementales, on voit bien que Ferrari est un groupe qui suit une stratégie de différenciation avec un modèle de chaîne de valeur et une organisation complètement intégrée. Les salaires sont très élevés. Effectivement, pour avoir des produits d'excellence et de très grande qualité, il faut du personnel très qualifié. 115 000 euros de salaire moyen chargé chez Ferrari. Salaire moyen chargé chez Ferrari. C'est même pas la médiane, hein, c'est le salaire moyen. Taux d'absentéisme extrêmement faible, 1,4%. C'est 2 à 3 fois moins que le secteur. Taux de turnover du personnel 3 fois inférieur au reste du secteur. Bah oui, quand vous avez du personnel très qualifié, il faut les garder. Et puis, également, politique de formation extrêmement avancée. Et en fait, je vais vous dire, pour nous, on considère que Ferrari, en conclusion, n'est pas un acteur, pas un constructeur automobile, mais plutôt une valeur du luxe, avec un modèle intégré, très comparable, très assimilable à une valeur dont vous discutez souvent ici sur les plateaux, qui est Hermès. Et donc, pour nous, c'est plutôt une valeur de l'ultra-luxe qu'on va mettre à côté d'autres valeurs du secteur dans nos portefeuilles.
Ferrari, donc Stéphane Prévost, le directeur général de la financière responsable. Merci Stéphane d'être passé nous voir en plateau.
Merci à vous.
Et Wall Street qui alors recule un peu, le S&P 500, là, moins 0,1%, rien de méchant. Le CAC 40 lui recule de 0,8%. Dans un instant, c'est la famille qui va se réunir, la famille au complet. Julien Marion va nous rejoindre. Et puis notre bullshitomètre aussi, chaque jour, un expert de marché vient déconstruire une idée reçue, défaire un consensus de marché un peu trop facile à ses yeux. Ce sera au menu de la prochaine demi-heure. A tout de suite.